Alléluia, c'est bon de revenir à la maison. Le voyage a été très mouvementé, mais ça s'est bien passé. Donc j'étais avec deux personnes d'enseignement avec qui nous travaillons tous les jours d'ailleurs. Et en fait, on a été donc au Canada. Vous avez les salutations de Jean-Claude Makaka et d'Aurélie pour ceux qui les connaissent.
Jean-Claude Makaka,
ainsi de ce que son frère Denis aussi qui est dans une autre partie du Québec. Ensuite, nous avons fait juste une journée en Suisse pour voir quelques ministères. Et puis nous avons été chez Jacques et Diane, entre autres en Norvège. Ceux qui les connaissaient, donc ils vous saluent aussi. Et puis j'ai eu l'occasion d'être dans plusieurs églises, j'ai exercé le ministère plusieurs fois au Canada. Et puis aussi en Norvège, j'ai pu faire quatre endroits différents. Ils m'ont fait travailler les Norvégiens. J'étais dans un institut biblique où j' ai pu donner un enseignement deux enseignements d'une heure. Ensuite, Jacques avait organisé un séminaire avec quelques personnes à droite à gauche de différentes églises. Et puis j'ai aussi visité une église très particulière, une église d'Érythréens. Et l'Érythrée, c'est juste à côté de l'Éthiopie. Ça a été la réunion vraiment la plus puissante. La puissance de Dieu est tombée sur cette réunion de façon extraordinaire. Et il y avait à peu près entre 150 et 200 personnes. Et en fait, j'ai parlé au pasteur. Et ce pasteur m'a dit que l'Érythrée est un pays persécuté où on ne peut même pas prêcher librement l'Évangile. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'aigu sur la sono parce que c'est un peu bizarre le réglage. Merci. Et en fait, il m'a expliqué depuis 8 ou 9 ans
il y a
une terrible persécution en Érythrée. Tous les pasteurs sont en prison. Tous les évangélistes sont en prison. Et il y a plein de gens qui ont fui le pays à cause de l'évangile parce qu'ils n'acceptent pas, ils ne peuvent pas se réunir. Donc pensez dans vos prières à ce pays. Parce que franchement, les gens que j'ai rencontrés en Norvège, c'était vraiment super. Ils avaient une soif de Dieu extraordinaire. On sentait que vraiment, ils avaient soif du Saint-Esprit. Et Dieu les a touchés d'une façon vraiment merveilleuse. C'était vraiment super. Et vraiment, il y a une soif. Mais prions pour ce pays. Vraiment. Parce que c'est un pays qui souffre. Des gens ont soif de Dieu. Et il est inacceptable de voir au XXIe siècle qu'il y a encore des pays qui sont sous des régimes communistes. Ça fait 8 ou 9 ans qu'ils sont sous un régime communiste. Et en fait, les communistes ont essayé d'éradiquer complètement les églises. Donc franchement, c'est un sujet de prière. Nous avons la grâce et le privilège de pouvoir exercer notre foi librement. Et on peut vraiment louer le Seigneur pour ce privilège qu'on oublie si souvent. Je vous le garantis, si on devait fuir de partout parce qu'on ne pouvait pas exercer notre foi,
c'est vraiment
triste, c'est exactement ce que les Érythréens vivent actuellement. Alors, nous allons continuer l'enseignement sur la vie de l'esprit. Et je vous rappelle que nous avons étudié pas mal de choses déjà. Là, je voudrais continuer et terminer sur la prophétie.
Mais
je vous rappelle qu'il faut que vous appreniez à avoir un équilibre entre la vie par la foi et la vie de l'esprit. Vous devez connaître la parole de Dieu. Mais aussi, vous devez apprendre à être sensible au Saint-Esprit. La parole de Dieu, vous la recevez recevez au travers d'enseignements,
si
vous la méditez,
ça
crée la foi en vous,
ou
alors vous changez vos façons de penser par rapport à des mauvaises croyances,
ou
des mauvaises façons de faire,
et
notre vie change. Mais vivre seulement par la parole de Dieu, parfois vous amènera à faire des bêtises. Parce que finalement, vous avez une direction générale. Mais Dieu aussi veut vous diriger d'une façon spécifique. Même dans la prière, nous sommes limités. Souvent, nous sommes limités parce qu'il y a des moments où nous ne savons même pas quoi demander. Nous avons besoin que Dieu nous inspire, nous dirige. Donc nous avons largement aussi parlé de la direction divine. Et je vous rappelle, la première des façons avec laquelle Dieu va vous diriger, c'est par le témoignage intérieur. Je rappelle que si vous avez loupé des parties d'enseignement, toute cette série donc est disponible, on enregistre tout. Donc en fait, on s'est aperçu que la première des façons où Dieu nous dirige, c'est par le témoignage intérieur. La deuxième, c'est par une petite voix qui va vraiment nous parler. À l'intérieur de nous, dans notre cœur. Donc c'est la différence entre le témoignage intérieur et la voix de notre esprit. Le témoignage intérieur, c'est je suis là dans ma vie spirituelle, je fais les choses comme d'habitude, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me montre, comme si ça me montrait quelque chose. Il y a de la paix ou un malaise.
Où
je sens au plus profond de moi-même que je dois faire ça. Je ne sais pas pourquoi.
Je n'ai pas
entendu une voix spéciale, mais je le ressens au plus profond de moi-même. Rappelez-vous que tout ce qui vient de votre esprit est parfait. Parce que vous êtes né de nouveau. Maintenant, il y a des fois une petite voix qui va vous parler. À l'intérieur. Ça, c'est la voix de votre esprit, la voix de votre conscience. Et le Saint-Esprit nous parle au travers de cette petite voix. Là, on entend quelque chose au plus profond de notre cœur. Et puis, nous avons vu, beaucoup plus rarement, même des fois très rarement, moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens qui s'est arrivé. Dieu peut nous parler aussi avec une voix audible. Comme s'il y a quelqu'un dans la pièce qui vous parle. Mais c'est très rare. Dieu peut nous parler aussi par vision. Et nous avons vu que d'abord il y a les visions spirituelles, c'est-à-dire on voit des choses dans notre esprit. Personnellement, ça m'est arrivé. Ensuite, il y a les visions ouvertes. Où là, vous avez carrément la visitation d'un ange ou de Jésus. Vous voyez tout le monde naturel. Mais en même temps, vous avez un ange ou le Seigneur qui vient vous parler. On voit ça dans les Écritures. Ensuite, nous avons vu aussi qu'il y a être ravi en esprit. Là, c'est une expérience exceptionnelle que Dieu donne de faire à certaines personnes. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. On a vu l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Être ravi en esprit, c'est-à-dire l'esprit et l'âme sortent à ce moment-là du corps d'une façon miraculeuse. Mais le corps ne meurt pas. C'est un pur miracle.
Que
la personne revient dans son corps après. Ça nous montre, l'Écriture nous montre cela aussi.
C'est une expérience
très très rare. Ensuite, nous avons vu que Dieu peut nous diriger aussi d'autres façons.
Et
en particulier par la prophétie. Et Dieu nous donne parfois de recevoir des prophéties. Mais là, nous sommes en train d'étudier comment faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, je dirais, qui se retrouvent avec de mauvaises expériences dans la direction divine.
batahura ibyo kuyoborwa n'Imana
et qui ont tendance au bout d'un moment à dire ben franchement ça je n'y crois plus vraiment
ugasangageza ahantu yumva umenga yovuga ati ibintu sinkivyizera jewe
ils étaient certains que Dieu leur avait parlé
ugasanga yari yemejwe ko Imana yavuganye nawe
et puis ben, ils se retrouvent au bout d'un certain temps confus
amakagira ahantu yumva umenga arazazaniwe
donc là nous sommes en train d'étudier comment ne pas être confus parce que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion
turiko turigenda munato zazanirwa kuko Imana si Imana izazanira abantu
sachez une chose quand Dieu vous quand quelque chose vous met dans la confusion
ndakubwira ikintu kimwe nimba haje ikintu kigushira mu kuzazanirwa
ce n'est jamais de Dieu
nikiva kuma
Dieu est un Dieu de paix
Imana ni Imana y'amahoro
Dieu est un Dieu de joie
ni Imana y'umunezero
Dieu est un Dieu de grâce
ni Imana y'ubuntu
Dieu est un Dieu qui veut nous diriger clairement
ni Imana igomba kutuyobora neza
et à partir du moment où quelque chose viendrait de Dieu et met la confusion en vous c'est qu'il y a un problème
haje ikintu rero kivuye ku Imana kikazana kuzazanirwa muri wowe hari kibazo
parce que l'onction du Saint-Esprit
kubera ko amavuta yampuye mu yera
et nous éclaire toujours
ari ngaho kandi yamatuyobora tumurikira
parce que le Seigneur veut qu'on soit éclairé
kuko umwami aragomba ko tumurikira
parce qu'il nous aime et il veut qu'on aille quelque part c'est-à-dire là où il nous veut
aradukunda agomba ko tugira aho dushitse aha agomba ko
dushika donc de manière générale quand il y a quelque chose que vous recevez et on vous dit que c'est de Dieu
iyo habaye ikintu rero wakiriye bakagubira ko ari
cy'Imana si ça crée la confusion c'est que ça pose un problème
kivuye ku mana bikazana kuzazanirwa no ko hari kibazo
alors nous sommes en train d'étudier la prophétie
turiko turiga kubuvugishwa
et on a vu que la prophétie c'est un message donné dans une langue connue
twabonye ko buvugishwa ari ijambo cyangwa ubutumwa butanzwe mu rurimi
rumenyekanye
ruzwi ariko bivuye ku mana
nous avons vu qu'en hébreu ça voulait dire couler comme une fontaine et dans le grec du Nouveau Testament ça veut dire être le porte-parole de quelqu'un alors on a vu aussi qu'il y a de simples prophéties et dans le Nouveau Testament c'est la simple prophétie qui va apparaître qu'est-ce qu'elle fait elle console dans des moments difficiles
on
reçoit une prophétie elle va nous consoler ou alors elle édifie
c'est-à-dire
d'un seul coup il y a une lumière qui est faite par rapport à un verset ou par rapport à la parole de Dieu donc elle édifie
elle
console
mais aussi elle exhorte
et l'exhortation c'est souvent quand on commence à dévier d'un chemin au travers de la prophétie, Dieu nous ramène sur le droit chemin. Vous devez réaliser que Dieu vous aime. Il veut que vous marchiez dans le meilleur qu'il a pour vous. Maintenant, souvent, on passe à côté du meilleur de Dieu. Parce qu'on n'a pas la bonne attitude. Ou alors on manque de connaissances. Et c'est dommage parce que beaucoup de chrétiens pourraient vivre dans le meilleur de Dieu. Beaucoup de pasteurs aussi pourraient vivre dans le meilleur de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à entrer dans le meilleur de Dieu. Parce que finalement, ils ne savent pas vraiment comment faire. Ou ils refusent les choses que Dieu veut leur donner de faire. Il faut apprendre à entrer dans le meilleur de Dieu. Amen.
Amen.
C'est important. Alors, nous sommes en train d'étudier à propos de la prophétie. Et je vous rappelle que nous avons étudié ce texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 19, qui nous montre à propos justement de ce qu'on doit faire avec la prophétie. Il est dit, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Nous avons vu que le verbe examiner ici, c'est en fait le verbe qui a donné en français se documenter sur quelque chose.
C'est-à-dire
tu cherches à savoir si une chose vaut la peine d'être retenue. C'est-à-dire que tu mets à l'épreuve au travers d'examens pour savoir si ça vaut la peine. Donc la Bible est très claire. Toute parole que nous recevons, nous devons la faire passer sur le tamis d'un certain nombre d'examens. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Paul ici leur disait, hey, n'éteignez pas l'esprit, parce que les Thessaloniciens certainement ont fait des mauvaises expériences. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous verrez que c'était le contraire. Les Corinthiens ne cherchaient à faire qu'une chose, c'est à ouvrir leur bouche et à dire n'importe quoi au nom du Seigneur. Il y a un équilibre entre les deux. Et cet équilibre, c'est les églises mortes qui ne croient en rien des dons spirituels, ou les églises de fanatiques qui font tout et n'importe quoi. N'importe qui dit le Seigneur dit ceci, le Seigneur dit cela, viens, le Seigneur te dit cela. Les gens attrapent ça comme ça. Et ne font passer aucun examen. Ah, Dieu a dit. Dieu a dit. Non, nous avons tous une bouche, c'est très facile de dire Dieu a dit. Donc il y a sept examens que nous étudions qui nous permettent de savoir si une prophétie vaut la peine d'être retenue ou pas. Le premier, nous l'avons vu, c'est est-ce que cette prophétie glorifie et exalte le Seigneur? Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que vraiment c'est le Seigneur ou c'est un homme qui est exalté? L'objectif de la prophétie, c'est toujours que Christ soit au centre. La deuxième chose, c'est examiner par rapport à l'Écriture. Alors, je vous avais donné quelques exemples. Et je vous avais expliqué que là aussi, parfois, ça peut prêter à confusion quand les gens ne sont pas assez enseignés dans la parole de Dieu. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a beaucoup de prophéties qui racontent des malheurs sur tel ou tel pays, ou sur telle et telle église, ou sur telle et telle personne. Je suis désolé, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait pas ça. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas d'alliance nationale. Alors ensuite, nous avons vu le troisième examen, c'est est-ce qu'elle rend témoignage à notre esprit quand elle est donnée, bien sûr. Et là, on a parlé du discernement spirituel. Je vous ai montré qu'il faut absolument que vous appreniez à développer votre nature spirituelle. Pour savoir quand une chose vient de Dieu ou une chose ne vient pas de Dieu. Vous savez, plus nous allons avancer dans l'histoire de l'humanité, plus juste avant le retour du Seigneur, plus nous verrons justement de la contrefaçon. Et d'ailleurs, partout où vous verrez des réveils, partout où vous verrez des nations commencer à se lever pour Christ, Satan envoie ses émissaires pour faire du mal. Donc il faut faire toujours attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun discernement. Ils se laissent embarquer dans tout et n'importe quoi. Donc ils se retrouvent avec des problèmes parce qu'ils n'ont pas de discernement. On leur explique tout un tas de choses, des choses qui sont fausses, des gens qui sont envoyés littéralement par l'ennemi, ou des gens qui pensent avoir reçu des espèces de révélations, des gens qui violent des lois spirituelles du royaume de Dieu. Et j'en ai vu pas mal, des gens comme ça, des gens qui forment des groupes qui pensent d'un seul coup être en pleine révélation, et n'importe qui rentre dans ce genre de groupe se fait complètement séduire. Récemment encore, j'ai entendu des histoires comme ça. Quelqu'un qui commence à faire du dégât dans des églises là, en Europe et dans différents pays. Un type qui est là et on a l'impression que les gens sont comme attiré vers lui, alors qu'il enseigne des choses qui ne sont pas scripturaires, il dit des révélations qui ne sont pas scripturaires, mais les gens d'un seul coup se font séduire et ils sont attirés, pouf, comme ça, comme un aimant attire le métal. Et c'est terrible ce genre de truc.
Ce
manque de discernement.
Certaines
personnes d'ailleurs que je connais plus ou moins qui ont été dans de très bonnes églises pendant des années.
Et d'un
seul coup, ils sont complètement changés, entre guillemets, de la mauvaise façon. Et franchement, ça fait du mal de voir ça, de voir autant de chrétiens qui sont manipulables.
Quand vous vous faites
manipuler par des gens qui sont eux-mêmes manipulés par des mauvais esprits,
vous allez
être ce qu'on appelle séduit. La séduction, c'est quoi ?
C'est être
persuadé qu'on est dans la vérité. Et on est complètement dans l'erreur. Et ça, c'est les mauvais esprits qui font ça sur certaines personnes. Qui les amènent à croire et à être persuadés et à se donner pour quelque chose, mais se donner complètement d'une façon bizarre. Tiens, à l'époque, vous vous rappelez des histoires de Migromiko.
C'était
exactement pareil.
Les
gens étaient attirés comme ça.
Et ils
étaient dans un truc tellement bizarre à la fin. Et ça, c'est typique de mauvais esprits qui s'infiltrent
et qui séduisent les gens.
Alors, quatrième chose que nous allons voir, c'est est-ce que cette prophétie s'accomplit ?
Alors,
je vous rappelle une chose, dans la simple prophétie, il n'y a pas d'élément de révélation.
Par
contre, il y a des prophéties qui vont parler sur votre avenir. Parce que le Saint-Esprit veut nous révéler l'avenir. Jean chapitre 16, verset 13.
Jean 16, 13.
Eh bien, il va y avoir, Jésus va nous parler du Saint-Esprit.
C'est
pour la nouvelle alliance. Et il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira littéralement, vous dirigera dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et regardez bien la dernière partie du verset, et vous annoncera les choses à venir. Alors là, on va parler de prophéties qui parlent de notre avenir. Rappelez-vous que vous avez le Saint-Esprit en vous maintenant. La plupart du temps, Dieu vous parlera en premier et vous confirmera après. Et parfois, il utilise la prophétie. Pas toujours. Parfois. Rappelez-vous, on étudie des choses sur l'esprit, sur le monde de l'esprit. Mais vous ne pouvez pas en faire une règle générale, c'est-à-dire quelque chose qui obligatoirement va tout le temps se passer. Rappelez-vous que dans Romains 8, il est dit que le Saint-Esprit va nous diriger, nous les enfants de Dieu.
Donc
on peut s'attendre à être dirigé par le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous d'une chose. La façon dont Dieu va se servir pour nous diriger, ce n'est pas toujours la même.
Et
ne priez pas pour la méthode.
Ça,
c'est le business de Dieu. Si une fois tu as un songe, ne dis pas, Seigneur, donne-moi constamment des songes. Laisse Dieu faire comme il veut. Laisse-le te diriger comme il veut. Ça, c'est son business. Donc, parfois, Dieu va nous donner des confirmations prophétiques sur notre avenir. Ou des choses qu'on ressent particulièrement quand on est dans une transition dans notre vie spirituelle.
Et
à partir du moment où dans cette prophétie il y a un élément de révélation,
si c'est
sur le futur, je vous rappelle qu'à ce moment-là il y a un don spirituel qui est en action aussi, en dehors de celui de la prophétie qui est aussi un don spirituel qui s'appelle le don de la parole de sagesse. Et je vous rappelle que le don de la parole de sagesse n'est pas une sagesse pour accomplir des choses dans la vie, mais c'est une révélation sur le futur, sur les buts et les plans de Dieu. Alors dans Deutéronome 18, il est dit du verset 20 au verset 22, il est parlé des prophètes.
Je vous
rappelle qu'il y a des prophètes aussi dans le Nouveau Testament.
Mais ils ont
un rôle moindre que dans l'Ancien Testament.
Je vous rappelle
qu'ils n'ont pas un rôle de parler à la nation. La nation, c'est nous, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu. Mais Dieu n'envoie pas des prophètes pour parler à des nations. Ça, c'était bon pour Israël parce que c'était la nation de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes la nation de Dieu, nous, l'Église, et on est répandu par tout le monde. Et je vous assure d'une chose, j'ai vu plein de gens prophétiser sur des nations, et des malheurs, et ils se sont tous plantés. Tous. J'ai pas vu une prophétie qui était donnée sur une nation qui était vraie à propos des malheurs. La seule chose que j'ai vue, c'est quand il y avait des prophéties où il y avait des réveils qui étaient prophétisés. Mais qu'est-ce que j'ai entendu comme bêtise? Ça fait 29 ans que je suis sauvé. Et je peux vous dire, j'en ai entendu des gens ouvrir leur bouche et dire que le pays, à chaque fois le pays où on était, bien sûr, j'ai vécu sur 3 continents. Que Dieu allait juger la nation, que Dieu allait faire ceci, que Dieu allait faire cela. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Donc ça va concerner le peuple de Dieu. Et particulièrement des individus aussi. Au verset 20, il est dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Et Dieu va donner ici un critère d'examen des prophéties. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace, c'est-à-dire par lui-même qu'il a osé. Que le prophète l'aura dite, tu n'en auras point peur.
Atari kumuvugishwa ku murongo wa 20 azohangara kwigenera ijambo ntamugeze kuvuga akarivuga mu izina ryanje canka akagira ico avuga mu izina ry'izindi mana uwo muvugishwa azobizira apfe ariko nimwivuganya mu mitima yanyu muti ijambo uhoraho atavuze tuzoremenya dute umuvugishwa azogira ico avuga mu izina ry'uhoraho hanyu azogira ico avuga mu izina ry'uhoraho hama ntikibe ntigishike ico kizoba kitavuzwe n'uhoraho uwo muvugishwa azoba yahangaye kuci.
Donc c'est clair qu'un des critères de prophétie qui annonce l'avenir, un des critères de véracité, c'est-à-dire de preuve que c'est vrai, c'est sa réalisation ou pas. Si ça se réalise, ça veut dire que la personne commence peut-être reconnue comme, je dirais, un début d'être un vrai prophète. Parce que je vous rappelle que la plupart du temps, même si le chrétien, je dirais classique, le chrétien qui n'est pas dans le ministère peut donner des prophéties,
mais
la plupart du temps, ça sera des simples prophéties, assez rarement des prophéties qui contiennent un élément de révélation. La plupart du temps, ce sont les prophètes qui vont vraiment donner des prophéties qui vont concerner l'avenir. J'ai dit la plupart du temps.
Je
n'ai pas dit toujours. Dieu utilise aussi des individus,
mais
c'est quand même plus rare, qui vont donc donner des prophéties, il y aura des éléments de révélation. En tout cas, c'est plus les prophètes qui font ça. Même s'il y a des individus qui sont suffisamment sensibles au Saint-Esprit et que Dieu utilise dans ce domaine-là. Alors, on a un exemple, par exemple, avec le prophète Samuel dans 1 Samuel 10. Rappelez-vous, on est dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 10.
Samuel 1, verset 10, baratwereka umukozi w'Imana Samuel mu isezerano rya kera.
Et là, on va pas lire ce passage, mais Samuel, le prophète Samuel, va dire tout à propos de Saül.
Umukozi w'Imana Samuel yavuze ibintu byose kubijanye na Saul.
Il va lui révéler son avenir.
Amwereka kazo amubwira kazo zakiwe.
Il va lui dire, voilà, ne t'inquiète pas, les années que tu cherchais sont retrouvées.
Aramubwira ati ntiwugire ikibazo ntiwiganyire indogo bwa barondera zabonetse.
Tu sortiras d'ici, va se passer ça, tu vas rencontrer une troupe de prophètes.
Bwo niwavangaha uraza guhura n'abavugishwa hanze.
Tu vas te mettre à prophétiser avec eux.
Hamana uraza kuvugishwa na hamwe nabo.
Il va lui donner plein de signes comme quoi ce qu'il lui a dit c'est vrai.
amubwira amwereka ibimenyetso by'uko ije amubwiye byose ari ukuri.
Et parfois, quand quelqu'un vous donne une prophétie avec des éléments de révélation, il te dira, par exemple, demain, il va se passer ça dans ta vie. Et c'est là où tu pourras aussi voir si cette prophétie venait vraiment de Dieu ou pas. Bon, nous avons, par exemple, Agabus, dans Acte 11. Là, on est dans le Nouveau Testament. Agabus, c'est un vrai prophète du Nouveau Testament. Et au verset 27, 11-27, il est dit: en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.
Ngo muri iyo minsi abavugishwa n'Imana bava Yerusalemu baja muri Antiokiya, hava hasi umwe muri bo yitwa Agabo amenyesha avugishijwe na mpwemu yuko ikigoyi cinshi kizotera mu isi yose. Icyo yavuga ni kimwe cyatera ku ngoma ya Kiraudiyo, maze abigishwa umuntu wese nk'uko atunze bashinga kurungikira bene data b'Abiyudaya ibyo kubatabara.
Ça c'est formidable. Si on avait eu les télévisions à l'époque,
yaba icyo gihe hari amatelevizyo nk'iki gihe,
Agabus aurait pu dire voilà ce que Seigneur m'a révélé. Donc il faut préparer une solution. Imaginez-vous l'impact d'un tel homme de Dieu. Bon, on n'a pas beaucoup de ces gens-là dans le corps de Christ. Il y en a beaucoup qui parlent au nom du Seigneur, mais il y en a peu qui voient ce qu'ils disent se réaliser. Alors, on va voir aussi qu'une prophétie qui annonce l'avenir ne se réalise pas toujours. Ah ben là, je ne comprends plus, pasteur. Tu viens de dire il y a quelques minutes qu'elle doit se réaliser, c'est comme ça qu'on prouve qu'elle est vraie ou pas. Là, par exemple, Agabus prophétise quelque chose, un événement. L'homme est-il pour quelque chose dans cet événement, pour que ça se passe ou pas? Non, il annonce une famine, donc quelque chose qui va être mauvais.
Et l'Église réagit.
Maintenant, il y a un certain nombre de révélations et donc de prophéties avec des révélations qui sont conditionnelles. Ça, c'est quelque chose qui est très important que vous devez comprendre dans les révélations. Dans la vie de l'esprit, Dieu vous dira un certain nombre de choses à vous-même directement et ou au travers de personnes qui vont confirmer ce que vous avez reçu, qui vont concerner votre avenir. Maintenant, souvent, il y a des conditions à cela. C'est ça qui est très important à comprendre. Par exemple, lorsque David marchait vraiment avec le Seigneur, Dieu lui avait promis qu'il y aurait tout le temps quelqu'un de sa descendance qui serait roi sur Israël. Mais il avait mis des conditions. S'ils servent Dieu. Et on sait que Salomon a commencé à dévier. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire Israël s'est divisé en deux. Il y avait le roi de Juda au sud, là où il y avait Jérusalem, et les 11 tribus aussi, ce qu'on appelait le roi d'Israël, qui régnait sur les 11 autres tribus, les 10 autres. Et en fait, il y avait des conditions. Là, je vais vous montrer aussi certaines conditions, certaines prophéties avec conditions. L'homme a une implication dans la réalisation de son futur. Tout ne se fera pas automatiquement. Dieu vous donne votre futur, mais vous avez une part à jouer. Et cette part à jouer, elle se résume en un mot: obéissance. Obéissance. Ça, c'est très important. Ça, c'est un des éléments
qui est
dans votre vie
vous
placera toujours dans le futur de Dieu.
Et
le contraire,
qui
est la désobéissance, c'est toujours ce qui vous
déconnectera
de ce que Dieu vous a dit pour votre
futur.
Vous voulez un exemple, c'est très simple.
On
étudie depuis longtemps la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis une
descendance.
Mais Abraham a dû obéir
dans
différents
domaines.
S'il avait juste reçu la révélation de Dieu,
où
Dieu lui avait dit « Sors de la maison de ton
père »
et qu'il était resté.
En disant
« Non Seigneur, moi je veux tout voir ça ici dans la ville où je suis. »
Rien ne se serait
accompli pour lui. Donc, l'obéissance va être une clé. On va voir différentes choses. Il y a des choses qui sont conditionnelles. On va voir l'obéissance. Mais aussi, on va voir une autre chose que Dieu avait dite au travers du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe
38,
là, on va découvrir que Dieu va donner une parole à quelqu'un. Une parole à un roi. Et après, Dieu va différer cette parole. Non pas que Dieu change d'avis, mais Dieu sonde le cœur. Regardez ce que Ésaïe a dit au roi Ézéchias de la part du Seigneur. Au verset 1 d'Ésaïe 38, il est dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort ». Le prophète Ésaïe, fils d'Atmos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. »
Donc,
c'était définitif apparemment. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, de grâce Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Verset 4, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va dire Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici que j'ajoute 15 années à tes jours, je te délivrerai ainsi que cette ville, de l'emprise du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici, je fais reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés, qui est descendue sur les degrés d'Ahaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu.
Ngo maze Ezekiya hindukiriza amaso kurusika asenguhoraho ati tegera uhoraho we ni wibuka ingena nagendera mu byukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cyane maze jambo ry'uhoraho rishika kuri Yesaya ritigenda barire Hezekiya utuni ku uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti ngo yumvise ugusenga kwawe abonye namosozi yawe atehe ku munsi yawe yongeye ku imyaka 15 uti kandi azoku rokorana niki gisagara agukure mu maboko y'umwami wi Hashuri uti kandi azozigama iki gisagara.
Donc ça c'est tout à fait un exemple.
Ikironi na karolero.
Dieu va prononcer une parole.
Ahimana yavuze ijambo
par rapport à l'attitude du cœur de la personne à ce moment-là.
Maintenant,
la personne commence à se repentir
et
à chercher Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, lui donne quelque chose. Regardons aussi dans Acte 21. Vous savez, Dieu est bon. Mais nous devons aussi lui obéir. Et nous devons faire attention à un certain nombre de choses. La vie spirituelle, c'est quelque chose de simple quand nous en connaissons les principes. Si Dieu vous donne une parole sur votre avenir, souvent elle est conditionnelle. Et particulièrement dans le Nouveau Testament, elle est conditionnelle à notre obéissance. Dieu ne te dira pas aujourd'hui, tu vas mourir demain. Ça, c'était sous la loi de Moïse. Amen.
Amen.
C'est pas le cas dans le Nouveau Testament. Paul ici va recevoir une parole toujours de la part du prophète Agabus. Et on va lire juste à partir du verset 8. Parti le lendemain, acte 21, nous sommes arrivés à Césarée. Étant arrêtés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. Vous trouverez cette histoire dans acte 6, hein, l'un des sept. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient, donc elle n'était pas prophète, je vous le rappelle. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié de Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur, car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.
Kuva ku murongo wa gatandatu ngo tumaze gusezerana dutambukira mu bwato nabo basubira iwabo natwe turangije urugendo rwo kuva muri Tiro dufata iputaroma turamutsa bene data tumara nabo umunsi umwe bukebwaho tuvayo dushika
c'est du verset 8 on a dit jusqu'au verset 14
kuva ku murongo wa 8 mumbabarire bukebwaho tuvayo dushika ikayisariya twinjira mu nzu ya Filipo umuvuzi w'ubutumwa bwiza numwe muri babandi ndwi twakindariwe uwo yarafise abakobwa bane b'inkumi bavugishwa n'Imana ariko ntibarabavugishwa tugitevye iminsi myinshi haza uvugishwa n'Imana yitwa Agabo yaramanutse avuye i Yudaya azaho turi yabira umukanda wa Paulo awibohesha amaguru n'amaboko aravuga ukuniko mwemu yera agize nyene uyu mukanda ukuniko abayuda bazomubohera Yerusalemu bazomushira mu maboko y'abanyamahanga maze twumvise ivyo twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo ntaduge Yerusalemu maze Paulo aratubaza ati mukora ibiki kurira mu ndandura umutima siniteguye kubohegwa gusa Yerusalemu ariko no gupfirayo kubwizina ry'umwami Yesu yanse kubicungura ko turihorera tuti vy'umwami agomba nibibeho.
Ici, on va regarder un tournant du ministère de Paul. Paul, dans Acte 19, avait eu vraiment l'apogée de son ministère. Si vous étudiez l'Écriture, vous verrez que Paul, au moment où il était en Asie mineure, dans l'ouest de la Turquie, Paul vraiment avait vécu des choses extraordinaires. Mais il va vouloir aller à Jérusalem. Personnellement, je pense que c'est une erreur de sa part. Puisque après Acte 21, quand il est à Jérusalem à Acte 22, son ministère s'arrête quasiment. Il se fait arrêter, il perd du temps en prison. Il y a des gens qui se moquent de lui. Et on ne voit plus Paul en train de planter des églises, de faire des instituts bibliques. On ne voit plus prêcher ouvertement, faire des miracles, des guérisons, etc. Sauf quand ils font naufrage dans Acte 28. Mais en résumé, c'est relativement un gâchis à partir de ce moment-là. Personnellement, je pense qu'il a fait une erreur. Et que là, cette prophétie était quelque chose qui lui annonçait l'avenir si il allait à Jérusalem. Paul a été à Jérusalem et il s'est retrouvé effectivement lié. Mais il ne s'est rien passé de très intéressant dans sa vie après les années suivantes. Et ça, je pense pour moi que c'était plus une prophétie d'advertissement pour lui.
Mais
certains ont fait des commentaires sur cette façon où Paul voulait absolument aller à Jérusalem. Certains se sont dit, est-ce qu'il voulait vraiment, je dirais, il avait vraiment cette envie de prêcher l'évangile à Jérusalem, de retourner à ses racines. Il y a eu pas mal de commentaires qui ont été faits à propos de ça. Mais il est sûr d'une chose, que s'il montait à Jérusalem, hop, certainement la parole allait s'accomplir et elle s'est accomplie malheureusement. Mais c'était une catastrophe pour lui. Il a prêché devant des gens, les gens ont voulu le tuer, il n'y a personne qui s'est converti. Il a failli mourir à ce moment-là. Les Romains l'ont pris et puis ils l'ont traîné d'endroit en endroit pendant des années. Et ça n'a vraiment pas été profitable pour son ministère. La parole qu'Agabus lui a donnée s'est effectivement accompli. Mais Paul avait une volonté. Il aurait pu dire non, moi je veux continuer mon ministère. Mais s'il n'était pas monté à Jérusalem, il ne se serait pas fait arrêter, son ministère n'aurait pas eu ce tournant-là. Donc sachez une chose, si quelqu'un prophétise l'avenir sur vous,
kuri wewe,
ou que le Seigneur dont vous a parlé aussi,
et que
ça ne s'accomplit pas,
ne
commencez pas à tout remettre en question sur cette parole.
Faites
attention de ne pas faire l'erreur que beaucoup de chrétiens font.
Vous
voyez, il y a beaucoup de chrétiens, ils foncent sur la moindre parole qu'on leur dit, ainsi parle le Seigneur.
Ça, c'est
une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'on apprend à faire passer des examens aux révélations, aux prophéties qu'on reçoit.
Mais
l'autre côté, il y a des gens
qui
reçoivent vraiment des paroles du Seigneur. C'est confirmé,
ça
vient vraiment du Seigneur. Et vous les trouvez 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, complètement par terre, complètement
égarés.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris une chose. C'est que Dieu, quand il nous révèle l'avenir, il
ne
faut pas qu'on s'assoie et qu'on croise les bras.
Mais
il y a l'obéissance. L'obéissance de base de la parole de Dieu. La croissance spirituelle qui va s'opérer. Et petit à petit, Dieu va nous amener dans des hauteurs. Mais c'est lui qui donne la promotion. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils se découragent au bout d'un certain temps. Ou alors, ils remettent en question les révélations qu'ils ont reçues. Ne faites pas ça. Si vous avez vraiment reçu des révélations, tenez-vous à ces révélations. De ce que le Seigneur veut faire dans vos vies. Ça ne se passera pas du jour au lendemain. Ça mettra du temps. Vous savez, quand Dieu nous parle sur notre avenir, des fois ça concerne 15 ans, 20 ans plus tard.
Moi
je vois des choses que le Seigneur m'avait clairement
montrées.
Il y a plus de 15 ans qui sont en train de s'accomplir sous mes yeux.
Vous
êtes une grande partie de cette révélation. Le côté du business, c'est la même chose.
Je
m'en avais parlé il y a bien longtemps.
Je n'ai
jamais rien fait dans ce domaine-là. Là, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir.
Pour
pouvoir vraiment donner de la nourriture solide
à des
gens qui sont dans le business. Les médias, tout ça, le Seigneur m'en a parlé il y a bien des années. Mais il fallait obéir. Il fallait continuer à travailler pour lui. Au milieu de l'adversité, au milieu de tout ce qu'il pouvait dire, non, tout ça c'est faux.
Vous
voyez, donc ne vous découragez jamais si vous avez vraiment reçu une vraie révélation. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent et au bout d'un moment, ils disent non, finalement, ça devait être faux. Ils remettent tout en question et souvent, à ce moment-là, ils rétrogradent. Et c'est dommage. Non, si le Seigneur t'a promis quelque chose, attache-toi à cette promesse et dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en attendant? Je sais que tu vas amener à la réalisation cette promesse. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il va falloir que tu travailles sur toi-même. Ça
ne
s'accomplira pas tout seul. Si ça ne s'est pas encore accompli, ça veut dire que Dieu t'attend. Ne dis jamais, Seigneur, moi je t'attends. Mais c'est Dieu qui t'attend. Donc prépare-toi. Prépare ton cœur.
Et
la meilleure attitude possible.
Pratique
la parole de Dieu.
Passe
du temps dans la prière.
Et laisse
Dieu continuer à travailler sur ta vie.
Et
au bout d'un moment, il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir. Mais si tu ne fais pas ça, il
ne
se passera rien. Il y a peut-être certains parmi vous, Dieu vous a promis un grand ministère. Mais Dieu ne confie rien de grand si avec les petites choses, on n'a pas été fidèles en premier. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'ils vont se retrouver du niveau 0,1 au niveau 10 000. Non, il y aura des étapes par lesquelles le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Mais il
va
falloir que tu obéisses. Et puis le Seigneur va tester ton cœur. Parce que vous savez, pour qu'une révélation se réalise, il faut que Dieu puisse nous faire confiance. Parce que Dieu ne veut pas qu'on chute quand une fois qu'il nous a amenés dans les hauteurs. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas au niveau du caractère quand Dieu les bénit trop.
badashobora kwihanganira imigisha myinshi.
Je tiens à vous le dire.
Reka mbabwize ukuri.
Dieu ne peut nous donner de la bénédiction.
Imana ishobora kuduha umugisha.
Que dans la mesure où on travaille notre caractère.
Mu rugezo bishobora kujana n'ingene tumeze.
Parce que si Dieu en déverse trop.
Kuko nkamwe yo gusukira vyinshi.
Et que ton caractère n'est pas prêt.
Hama ukaba utavyiteguye.
Il n'est pas suffisamment travaillé.
Utavyiteguye vy'ukuri.
Tu vas t'enorgueillir.
Ucusanga ugiye mu bwibone.
Et tu vas te retrouver par terre.
Hama ukubera ubwibone ugakoroka.
C'est pour ça que souvent Dieu ne peut pas nous confier plus.
Nico gituma kenshi Imana itaduha vyinshi.
Vous savez, je le sais, le Seigneur m'a repris plusieurs fois par rapport à ça.
Kenshi Imana yarankosoye yarankariye kenshi.
Personnellement, le Seigneur m'a montré certaines choses pour mon ministère.
Et
des dimensions très très différentes. Et je sais que ça s'accomplira seulement si mon cœur est obéissant. Mais je sais que là je suis pas prêt. Des fois vous goûtez un peu de ce que Dieu a pour vous. Mais vous sentez. Vous sentez aussi qu'il y a énormément de pression derrière tout ça.
Et que votre
caractère n'est pas
prêt.
Quand Dieu commence à le faire, un petit peu, vous donnez quelques
gouttes.
C'est là où tu dis, non Seigneur, là c'est trop, j'arrive pas à supporter ça. Parce que tu as besoin de grandir. Et Dieu fonctionne souvent comme ça. Dieu fonctionne souvent comme ça. Mais au début, on ne comprend pas. Le royaume de Dieu, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est connaître les principes. Quand tu connais les principes, Dieu peut faire les choses les plus extraordinaires. Donc, quand Dieu t'a révélé de grandes choses, tu passes par des étapes. Et rappelle-toi d'une chose, c'est sur toi que le travail va être le plus important. Souvent les gens prient, ils disent, ah si je jeûne et je prie, je vais arriver à cela. Non.
Oh, yeah.
Parce que d'abord Dieu doit travailler en toi. Et souvent ça a été des échecs. Les gens se sont dit, ah je sais que là si je prie, si je mets une semaine à part, je vais prendre un congé, je mets une semaine à part, une semaine de jeûne, et je sais que Dieu va faire ça. Et tu sors de là,
tu
es toujours le même. Et tu es encore plus déçu. Je vois que ça vous est arrivé aussi. On est tous pareils. Hein? Et c'est normal. Parce que Dieu nous attend. Dieu veut travailler en nous. Et quand on commence à être prêt, Dieu peut nous confier beaucoup plus. Cinquième test. Est-ce que cette prophétie suscite une révélation ou une dégradation? Là, on va parler de l'atmosphère spirituelle. Quand vous êtes dans une réunion et qu'il y a une prophétie qui est donnée, ça doit rajouter quelque chose en plus. Ça doit amener quelque chose en plus dans la réunion. Surtout si c'est une prophétie qui a un élément de révélation. Vous savez, quand vous prophétisez, que vous recevez une simple prophétie,
donc
une exhortation, une consolation, une édification. Donc si on n'est pas très forte. Par contre, il y a des moments où Dieu donne des prophéties avec des éléments de révélation. Et là, franchement, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et c'est pareil quand quelqu'un, par exemple, vient et peut vous pointer du doigt. C'est pas un problème, ça.
Si
c'est fait par l'esprit. Pas si c'est fait en essayant de deviner les situations. Ou par exemple, on est sur la plateforme, enfin sur l'estrade, et quelqu'un prie pour vous.
Un ministère,
et d'un seul coup, il vous donne une parole spécifique. À ce moment-là, c'est comme une décharge électrique que vous allez recevoir. La puissance de Dieu vous visite. Donc ça, il faut le comprendre. Il y a un rehaussement de l'atmosphère spirituelle.
Ce
n'est pas quelque chose où les gens vont commencer à s'endormir. Je me souviens un jour, on avait une dame comme ça qui est venue il y a longtemps dans notre église. Et elle s'agitait souvent dans les réunions. Elle n'est pas restée trop longtemps, elle a eu quelques mois, mais elle s'est souvent agitée dans les réunions. Et alors, c'était quelqu'un qui, d'un seul coup, se mettait debout dans l'assemblée. Et commençait à prier en langue. Entre guillemets, en langue. Et alors, au bout d'un moment, il a commencé à laisser des choses sortir de sa bouche que tout le monde comprenait. Cette brave dame, un jour, on était en pleine réunion. Et finalement, elle voyait qu'on ne lui laissait pas de responsabilité. Parce que souvent, les gens mal intentionnés veulent manipuler. Au travers de pseudo-révélations. Et alors cette brave dame commence au début de la réunion commence à se lever.
Et
elle commence à dire: Pharaon, laisse aller mon peuple.
Pharaon,
tu empêches l'action de mon esprit et la venue du réveil dans ce pays. Et elle me regardait avec de gros yeux bien en face.
Et
j'ai pas eu de révélation, mais je savais que Pharaon, c'était moi. Alors, franchement, ce genre de truc dans une église, si vous les laissez, vous allez vous retrouver vraiment avec beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on doit laisser libre l'exercice des dons spirituels.
Ceux
parmi vous qui avaient des groupes de maison, c'est pareil. Laissez les dons spirituels pouvoir être exercés librement. Mais si vous êtes responsable de groupe de maison, vous devez faire attention. S'il y a des abus, il faut savoir corriger. Il faut vraiment faire attention à cela. Et si vous sentez qu'il y a des gens qui essaient de visiter les membres des groupes de maison par derrière, il faut rapidement s'enquérir de la situation. Je dois le dire. La plupart du temps, quand des gens sont venus vers moi pour m'annoncer des choses, des révélations,
je n'ai
pas dit tout le temps, il y a des gens qui m'ont dit des choses vraies sur moi. Mais je dois dire que la plupart du temps, c'était des choses qui étaient fausses. Vous savez, vous pouvez avoir différentes façons de faire. Et normalement, quand une prophétie va amener un élément de révélation, vous allez être complètement envahi par la présence de Dieu quand on va vous donner cette révélation. Et souvent, Dieu va vous montrer votre état spirituel pour vous amener dans une nouvelle dimension. Ça, c'est vraiment la prophétie avec l'élément de révélation. En fait, vous êtes à un niveau et Dieu veut vous amener dans un tel niveau.
Et
Dieu d'un seul coup vous ouvre les yeux sur votre condition spirituelle et vous amène dans une dimension supérieure. Quand il y a un élément de révélation, c'est toujours Dieu qui amène une solution aussi divine à certains problèmes. Rappelez-vous que Dieu n'est pas là pour condamner, faire du mal, sauf quand il y a des gens qui sont manipulés par des mauvais esprits. Et qui cherchent à tromper des serviteurs de Dieu. Ça peut faire très mal parfois quand le jugement de Dieu tombe. Par exemple, Ananias et Saphira. Par exemple, il y avait aussi quelqu'un, alors que Paul était dans son premier voyage missionnaire,
où
il y avait un homme, un sorcier, qui essayait de détourner la foi d'un officiel qui était en train d'écouter l'évangile, le proconsul. Et à ce moment-là, Paul lui a donné une parole de jugement. Et cet homme a été aveugle pour un temps. Donc, quand ça va s'adresser, quand une prophétie avec un élément de révélation s'adresse à un chrétien, souvent il va être complètement envahi par la présence de Dieu et ça va parler sur son avenir.
Et
ce chrétien va savoir, il doit savoir que ça vient de Dieu. Maintenant, souvent, quand Dieu s'adresse à quelqu'un qui est déjà dans le ministère, il va y avoir une onction beaucoup plus forte au travers de cette prophétie.
Donc
ça, c'est une remarque qu'on peut faire à propos du rehaussement de l'onction. Alors maintenant, sixième examen, c'est quelle est la source de la prophétie. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui ressemble à une prophétie. Ça peut être une vraie prophétie. Mais ça peut être aussi quelque chose fabriqué. ou quelque chose qui est manipulé. La source de la prophétie, la vraie prophétie, bien sûr, vient de Dieu. La source, les deux sources des fausses prophéties, ça vient soit des hommes, ou soit du diable. Donc, il peut y avoir trois sources quand quelqu'un dit ainsi, dit le Seigneur. La première, bien sûr, c'est par le Saint-Esprit. La deuxième, ça peut être quelqu'un qui s'est trompé, ou soit, on va voir les différentes motivations, mais qui a fabriqué une prophétie. Ou soit quelqu'un qui est manipulé par des mauvais esprits. Alors, c'est étonnant, mais dans le corps de Christ, il y a des fabricants de prophéties. Des gens qui fabriquent, comme on fabrique des faux billets, il y en a qui fabriquent des fausses prophéties. Alors, il y en a qui font ça vraiment avec un mauvais cœur. Et en fait, ils veulent s'enorgueillir, en quelque sorte. Ils veulent avoir les yeux, attirer les yeux des gens vers eux. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'évidemment, il y a des gens comme ça, peut-être qu'un jour, ils ont reçu une vraie prophétie. Mais au bout d'un moment, ils sont tellement remplis d'orgueil
qu'ils
commencent à fabriquer des prophéties. Pour que les gens disent, ah, frère Steve.
Vraiment,
tu es prophète, je suis
sûr.
Chaque fois, tu donnes des prophéties.
Et là,
évidemment, Steve se prend la tête.
Il commence
à dire, bah oui, finalement, c'est simple. Et il commence à s'enorgueillir et les gens ont les yeux sur lui. La deuxième forme de contrefaçon, c'est la manipulation. Alors, la manipulation, on l'a vu, je vous ai donné plusieurs exemples et témoignages, entre guillemets. Les gens qui veulent escroquer les autres, qui donnent des paroles histoire d'embobiner la personne pour que la personne commence à ouvrir, à donner son argent, ouvrir son portefeuille. Ou alors des gens qui donnent des fausses prophéties pour avoir une sorte de pouvoir psychologique sur certaines personnes. Donc des manipulations. Le Seigneur te dit que, donc il faut que tu obéisses au Seigneur. Ou parfois des gens qui s'arrangent pour combiner des faux mariages. Enfin des mariages... le Seigneur me dit que tu dois te marier avec moi, etc. Je connaissais quelqu'un comme ça, un couple qui s'était marié. Et à l'époque, ils étaient dans une église. Et tristement, leur pasteur avait fait des pressions et avait fabriqué certaines fausses prophéties. Qui devait se marier, c'était sûr. C'était exactement ce que Dieu avait pour eux. Alors, il y a des gens aussi qui sont gentils et qui ressentent des choses pour vous, des bonnes choses. Ils vous aiment bien, vous priez souvent ensemble. Il y a une bonne atmosphère d'amour. Et puis de temps en temps, ils ont envie d'aider un peu le Seigneur à ce que vous soyez un peu plus bénis. Oui, le Seigneur dit que tu vas en déverser encore plus sur toi. C'est pas fait avec des mauvaises intentions. Mais c'est mal fait. Ne dites pas, le Seigneur dit, quand tu ressens quelque chose dans ton cœur.
Et
seulement, voilà, vraiment, je ressens dans mon cœur pour toi vraiment que le Seigneur veut te faire avancer dans ça. Je vais prier pour toi, etc. Soyez simple. Arrêtez de faire. Le Seigneur. Il y a des gens tellement bizarres. Et il y en a d'autres. Alors, ils forcent les choses. Il prie pour recevoir des prophéties. Et alors, au bout d'un moment, il pense recevoir des prophéties. Et
ils
disent tout et n'importe quoi.
Donc,
il faut éduquer les gens.
Vous
savez, il faut éduquer les gens. On a tous besoin d'éducation dans le Seigneur.
Amen.
Nous sommes dans un royaume. Et nous devons être des gens éduqués du royaume. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas supposé avoir des mentalités de paysans. Mais des mentalités de nobles. Nous sommes fils et filles du roi.
Amen.
Donc on doit avoir des mentalités qui correspondent à la mentalité du roi des rois. Et lui, il pense très élevé.
Il pense très élevé.
Faisons à cela. Attention à cela. Alors, le dernier type donc de source, bien sûr, c'est la source diabolique.
Et
là, nous avions vu déjà un passage d'Acte 16, on ne va pas le relire. Où il y avait cette sorcière qui suivait Paul et ses amis.
Et elle
criait : ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du
salut.
Mais apparemment, ça paraissait être une super prophétie. Mais en fait,
ce
n'était pas une prophétie.
En tout
cas, de source divine. C'était des choses qui étaient vraies. Et ne vous faites pas tromper par des gens qui agissent sous des esprits familiers. Il y a des gens qui sauront vous dire ce que vous avez fait dans la journée en communiquant avec ces mauvais esprits.
Ce
n'est pas ça qui fait la preuve, la véracité d'un message. Alors, je ne vous parlerai pas de l'autre côté de la Ruzizi. On avait des étudiants à l'époque qui me posaient des questions.
Ils
me disaient, mais nous, dans notre coin, c'était encore les histoires de Baraka et Mboko.
Mboko.
Tu ne connais pas Mboko. Il faut aller en pirogue là-bas. Tu ne peux pas y aller par la route.
Le
long du lac, là-bas, un peu plus loin. Après Fizi.
Ah, na kabanza qui toi gutyo.
Et alors, ils avaient, dans certaines églises, des gens qui leur faisaient passer des petits papiers. Alors, il y avait des soi-disant prophétesses. En général, c'est les dames, là.
Oui, chacun
a son boulot dans ce domaine-là. Et alors, ils faisaient passer des petits papiers, comme ça, en pleine réunion.
On
mettait dans les mains des chrétiens comme ça. Et alors le chrétien ouvrait. Mais c'était un message codé. Et alors seulement il fallait voir le monsieur ou la dame, en général c'était la dame. Et elle avait l'interprétation du message codé. Et ces chers étudiants de l'époque, ils étaient persuadés que c'était vrai. Parce
qu'il
y avait des choses qui paraissaient vraies. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose sur votre vie qui est vrai
qu'il
est inspiré par le Saint-Esprit. Non, les gens dans la sorcellerie font souvent ça. C'est justement comme ça qu'ils trompent les inconvertis. En leur disant des choses réelles sur leur vie.
Oh,
je vois que tu as une peine de cœur. Apparemment, il en a une. Non,
tu tu vas prier pour moi.
Je vais te donner une révélation.
J'en ai besoin.
Et en fait, donc, vous voyez, des choses comme ça. Alors les gens se disent, ah, c'est vrai ça. Ah, je vois que tu as une grande maladie. Tu es venu ici pour me demander à propos d'une grande maladie.
Ils ne parlent
pas par l'esprit de Dieu, ces gens-là. Ils parlent par des esprits sataniques. Et les gens courent pour avoir des solutions. Mais je suis désolé, Dieu n'agit pas comme ça. Il agit avec ton cœur. Plus ton cœur a soif, plus Dieu viendra et donnera les révélations dont tu as besoin. Mais ne te laisse pas tromper. Et n'hésite pas à dire à des gens, ça, ça ne vient pas du Seigneur. Des fois, ça choque des gens. Mais dans ce que tu as dit là, ça ne vient pas du Seigneur. Mais si, ça vient du Seigneur.
Non,
ça ne vient pas du Seigneur.
Et
vous savez, il faut aider un certain nombre de personnes
qui
parfois ne comprennent pas bien comment la prophétie marche. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent par ignorance.
Ceux-là,
il faut leur pardonner la première fois et les instruire.
Maintenant,
s'ils recommencent régulièrement,
il faut
les prévenir. Et après, il faut les chasser.
Amen.
N'hésitez pas.
Urumva nta gutinya.
Parce que sinon vous allez vous entourer de gens bizarres.
Atarakuzosanga ukikujwe n'abantu badatomora.
Donc Paul avait affaire à ce genre de personnage qui voulait ni plus ni moins entraver son ministère.
Paul rero yahura n'abantu mwe nabo bagomba kwica igikorwa ariko akorera
Imana. Dans la première épître de Jean chapitre 4.
Muri Yohana wa mbere gice cha 4.
La Bible nous dit d'éprouver les esprits.
Biratugira ngo dusuzume impwemo.
La Bible nous dit d'éprouver les esprits. La Bible nous dit, verset 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas, 1 Jean 4, verset 1, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le verbe « éprouver », c'est exactement le même verbe qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens 5, c'est le verbe « dokimazo », se documenter.
Iri jambo rero ngo mugaragaze impwemo ni rya jambo twasoma kare ngo ijambo kurondera kumenya kwidokumenta.
Les mauvais esprits parlent aussi.
Nazo ziravuga.
Par des gens qui sont manipulés, qui sont possédés.
Ziravuga ziciye mu bantu sanga zarifatiye zikoresha.
Et la Bible nous dit d'être clair, il faut éprouver ces mauvais esprits.
Biraje tugira ngo tugabe tupime
dusuzume. Si parle, il dit qu'il parle au nom du Seigneur.
Ngo umuntu avuze ngo avuze mu izina ry'umwami.
Nous devons avoir ce discernement. Dans ton esprit, tu sentiras tout de suite. Tu vas sentir un malaise.
Ou
au contraire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va venir sur toi. Mais malheureusement, souvent, les chrétiens sont bébés spirituels.
Alors,
parce que vous savez, le diable sait aussi, et ça, même s'il n'est pas omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient, il y a des moments où il sait aussi où est-ce que ça va nous toucher particulièrement. Tu seras un grand prophète.
Est-ce
que tu priais pour ça? Et d'un seul coup, tu dis, mais c'est vrai, je priais pour ça. Et d'un seul coup, c'est ton orgueil, tes sentiments qui réagissent. Et crac, il ferme le piège. Et tu deviens la proie de ce genre de personnage. Septième et dernière chose. Là, on va plus se concentrer sur le ministère de prophète. Parce que, je vous l'ai dit, très souvent, lorsqu'il va y avoir des révélations sur l'avenir, j'ai pas dit toujours,
mais
j'ai dit très souvent,
ça
viendra plus au travers du ministère de prophète.
Et
là, vous devez apprendre à regarder. Si par exemple quelqu'un se dit prophète
et
que vous aimez son ministère,
eh
bien, c'est une bonne chose de regarder non pas à l'homme, mais regarder au fruit.
Et
le fruit se voit selon les années, c'est-à-dire les années qui passent. Apprenez à regarder les gens par leurs fruits. C'est une grande leçon que nous devons apprendre. Jésus le dit dans Matthieu 7. Et je vous garantis, si vous apprenez à voir, et si on apprend à se voir les uns les autres plus au travers des fruits que nous portons, plutôt que du style que nous avons, plutôt que toutes sortes de choses, toutes sortes de critères du monde,
eh
bien, ça nous aidera beaucoup à voir qui nous sommes les uns les autres.
Vous
savez, moi, quand je vois des gens être, je dirais, avoir des manifestations qui peuvent être du Saint-Esprit ou qui peuvent être de la chair, j'attends toujours de voir le fruit. Si quelqu'un me dit je vis des expériences extraordinaires avec Dieu, dans la présence de Dieu,
je veux voir
des fruits. Si quelqu'un me dit vraiment dans la foi, c'est extraordinaire. Je
vois
des fruits. Si quelqu'un me dit j'exerce les dons du Saint-Esprit,
je vois
des fruits. Si quelqu'un me dit je suis dans le ministère, je regarde le fruit. J'essaye au maximum de pratiquer ce que Jésus dit ici dans Matthieu 7.
Dans
Matthieu 7, Jésus dit au verset 15, regardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi ? Leur style ? Le nom du ministère ? Non, à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou sur des figues sur des charbons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez.
Ngo mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi muzobamenyera kugene bambaye muzobamenyera kugene bavuga muzobamenyera kuvyo bama mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu nuko igiti ciza cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi igiti ciza ntigishobora kwama ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro nuko muzobamenyera kuvyo bama.
Alors comment est-ce que je reconnais un ministère de prophète entre autres?
Nigute nzomenya ko umuntu hari umuvugishwa
fruit
ivyama.
Si quelqu'un a un ministère de prophète, il va amener des gens au Seigneur. Il va avoir des miracles. Il va avoir des guérisons. Et il va y avoir des choses qu'il va dire qui vont s'accomplir. Si je vois ces choses dans son ministère, non pas parce qu'on exalte l'homme, mais si on exalte
Christ,
alors je me dis, ce sont des bons fruits. Les bons fruits. Jésus nous dit de regarder les fruits, mais il faut savoir s'ils sont bons ou ils sont mauvais. Et c'est à cela qu'on reconnaît l'arbre. Maintenant, il peut y avoir de vrais prophètes qui se trompent. Ça arrive aussi.
Et ce
n'est pas parce qu'une personne s'est trompée une fois qu'il faut dire « Ah, ça y est, je m'en doutais, c'était un faux prophète. » Non, vous faites un bilan général. En observant un ministère, vous regardez la personne. Mais je peux vous dire une chose, j'en ai pas vu beaucoup des vrais prophètes sur la terre. Par contre, des gens qui ont des titres de prophètes, ça j'en ai vu plein. C'est très facile de se mettre une étiquette. C'est beaucoup plus difficile de faire semblant de produire. Et du fruit qui demeure. Regardez le fruit et regardez si le fruit demeure. Ça en dira très long sur la personne. Apprenez à le faire, je vous garantis. Si quelqu'un vient à vous, il dit, moi je suis prophète, machin truc. Moi je vous assure, vraiment, quelqu'un peut m'annoncer tous les titres qu'il veut, ça ne m'impressionne pas. Déjà, au bout de 5 minutes de conversation, on va tester la température. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je saurai à peu près. Mais après, il faut voir le ministère en exercice. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Qui parle au nom du Seigneur. Il faut faire très attention à cela. Si vous dites quelque chose au nom du Seigneur, apprenez à avoir une certaine assurance. On peut se tromper, n'ayez pas peur de vous tromper. Ça arrive à tout le monde. Mais apprenez à écouter votre esprit. Si vous recevez une prophétie, je vous rappelle que c'est l'onction de Dieu qui va descendre sur vous. Et
d'un
seul coup, c'est comme quelque chose qui va vouloir sortir de votre esprit. Quelque chose où vous allez serrer les yeux très 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 fort. Vous
essayez
d'avoir quelque chose qui vient dans votre tête. Je
ne
sais pas, apparemment quand il y a des gens qui serrent très fort leurs yeux, je pense que ça doit faire une pression sur leur cerveau peut-être, et ça doit amener des pensées supplémentaires, je ne sais pas. Je
ne
sais pas, il y a des gens qui font ça. Hein. Ne faites pas ça. Laissez Dieu vous utiliser. Laissez Dieu vous parler. Apprenez à tester les choses.
gupima
ibintu. Ne vous fermez pas à la vie de l'esprit.
Ntiwiyugare ku buzima bwa mwe.
Mais n'accueillez pas tout et n'importe quoi.
Ariko kandi ntiwakire ibije byose.
Dieu vous parlera sur votre avenir.
Imana izovugana nawe kuri kazoza.
Au moment opportun où vous avez des transitions.
Mu gihe gikwiriye iyo arahandi ugomba kwinjira.
Dieu vous parlera sur votre avenir.
Imana izovugana nawe kuri kazoza.
Quand vous venez de donner votre vie au Seigneur.
Chane chane iyo ubwo ugikizwa.
Vous êtes là en disant Seigneur, moi qu'est-ce que je veux faire pour toi? Là, le Seigneur te donne une ou deux grandes lignes.
Et
après, souvent, Dieu ne te dira rien pendant des années.
Et
après, tu vas commencer à obéir au Seigneur. Tu vas sanctifier ta vie.
Tu
vas marcher avec lui. Et d'un seul coup, Dieu va commencer à te dire, hey, j'ai ça plus précis pour toi. Et puis, tu auras des confirmations. Tu vas monter de gloire en gloire et de victoire. Jusqu'à temps de voir exactement ce que le Seigneur a prévu d'avance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer avec ces leçons.
Toi, tu as rangé.